Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Pierre Henriquet, aussi connu sous le nom de Astropierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Elodie.
Je suis vraiment ravie de t'avoir à ce podcast. Merci d'avoir accepté.
Je t'en prie, c'est un plaisir.
Alors, on va discuter à peu près une demi-heure et si tu veux, je te propose de commencer par nous raconter ce que tu fais en ce moment.
En ce moment, depuis un an en fait, je suis médiateur scientifique ou vulgarisateur scientifique. C'est vrai que dans la communauté, il y a ouais. Toujours est-ce qu'il faut dire l'un ou l'autre ? Est-ce que ces deux mots veulent dire la même chose ou pas ? C'est toujours quelque chose... C'est pas une question qui est complètement résolue. Hein.
Il y a du débat, ouais.
Exactement. Donc, moi, j'aime bien médiateur scientifique. Et je suis depuis un an en freelance. Donc, j'ai fait mon entreprise et je vis maintenant de mon travail de médiation scientifique.
On peut te retrouver sur Twitter @astropierre ou je ne sais pas comment dire. Tu nous inondes de bonheur, de nouvelles scientifiques, mais aussi parfois d'images atroces comme celle de la mouche hier, par exemple.
Tu as pas aimé la magnifique image de la bouche de la mouche. Je la trouve magnifique.
Alors. Je vais la mettre en description de ce podcast pour que tout le monde puisse en profiter et que les gens puissent nous dire s'ils la trouvent magnifique ou pas. Elle est magnifique, mais elle est quand même un petit peu dégueu.
C'est le proboscis de la mouche et on n'en a jamais vu aussi bien. Vous me direz ce que vous en pensez.
Voilà, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Je la mettrai en description. Tu nous en diras plus sur ton travail actuel, vraiment tout ce que tu fais plus vers la fin de ce podcast. Moi, j'aimerais maintenant retourner en arrière pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours.
Alors, mon parcours, il n'est pas très linéaire,
ouais.
Entre autres parce que je suis plutôt jeune et je viens d'une époque où, alors je vais faire mon vieux là.
Vas-y, on est la même team, je pense.
Voilà, à mon époque, quand j'étais jeune,
jadis,
il n'y avait pas de formation ouais. pour la médiation scientifique. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont extraordinaires. Si on veut se lancer dans cette discipline, que ce soit plutôt du côté journalisme ou la partie médiation, la partie communication scientifique, il y a des filières à l'université, il y a des formations qui permettent de faire ça. Et moi, quand j'étais jeune, il n'y avait rien du ouais. tout. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur le tas.
Ouais.
Et du coup, j'ai une histoire qui n'est pas en ligne droite. Hein. J'ai fait quelques zigzags. Voilà. Donc,
Je fais
vite. Ah oui, j'ai fait la thèse. Alors avant la thèse, donc rapidement, j'ai fait un bac scientifique quand même. Mm-hmm. Après, je suis allé en prépa, en classe prépa, donc maths sup, maths spé. Plutôt normalement fait pour être ingénieur. Arrivé à la fin de la dernière année, je me suis aperçu que je voulais pas du tout faire ingénieur. C'était en fait pas ça qui. Et oui, mais ça prend du temps de réfléchir à ce qu'on va faire dans la vie. Mais et ouais. quand t'as 18 ans, on te demande de faire des choix aussi drastiques que, ouais. que ça, parfois tu peux faire des erreurs. Ça existe, hein. D'ailleurs, il faut le dire. Voilà, les erreurs, les virages, les changements, les retours en arrière, ça fait partie de la
c'est
vie.
Vrai.
Donc, je les ai vécus. Il faut pas en avoir honte. Ça fait partie de l'expérience. Donc, mm-hmm. du coup, ensuite, j'ai quitté la prépa. Je suis allé à la fac. Et puis arrivé à la fac en licence de physique-chimie, je me suis dit, ça fait déjà toute ma petite vie que je m'intéresse à l'astronomie, que je lis des bouquins, mais que je regarde pas le ciel. Donc, je vais peut-être m'acheter un télescope. Donc, j'ai ouvert.
T'en avais pas avant.
J'en ai jamais eu. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est. Enfin, moi, j'ai toujours été. Quand j'étais petit, j'étais un rat de bibliothèque. Je dévorais okay. tous les livres Hubert Reeves, Stephen Hawking, tous les livres de vulgarisation sur le ciel, j'adorais ça. Mais ensuite, je regardais ça avec mes yeux. Donc, j'ai décidé d'avoir un télescope. J'ouvre, je crois que c'était un ciel et espace, à la section Petite annonce. Et là, je vois qu'un centre d'astronomie en Provence cherche un médiateur scientifique. Déjà, je découvre que ça existe, qu'il y a un métier qui s'appelle médiateur scientifique et qu'on peut être payé pour faire ce que je faisais autour de moi, c'est-à-dire raconter l'astro à des gens que ça intéressait pas. Donc du coup, sans expérience, mais avec beaucoup de passion et d'envie, j'ai été sélectionné et je suis parti travailler pendant 4 ans, 5 ans en Provence, où là j'ai vraiment découvert ce boulot de zéro et je me suis aperçu que c'est ça que j'aimais quoi. C'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais et que j'y prenais un plaisir fou. Donc, accueillir du grand public, des scolaires, leur parler d'astronomie durant la journée, leur expliquer des choses, faire des ateliers, et puis le soir, eh bien, faire de l'observation du ciel et des étoiles avec des télescopes tellement gros que je pourrais jamais me les acheter. Du coup, je m'en suis jamais acheté.
Et ça, c'était pendant tes études.
Du coup, j'ai arrêté mes études et je suis parti travailler pendant 5 ans. Là. Donc, c'est à
Ah, d'accord.
Saint-Michel-l'Observatoire. D'ailleurs, pour ceux qui sont à côté,
Ok.
n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc, il y a l'Observatoire de Haute-Provence où on fait de la recherche. Il y a le Centre d'astronomie de Saint-Michel-Observatoire qui est toujours ouvert et qui accueille du grand public et qui est toujours un coin très, très sympa avec un ciel, évidemment, de Provence qui est.
Ça doit être sympa.
Voilà, donc du coup j'ai arrêté vraiment mes études, je suis parti travailler pendant 4 ou 5 ans, j'ai appris plein 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 de choses, puis au bout d'un moment j'ai voulu terminer mes études, donc je suis revenu à la fac à Lyon, et là j'ai découvert la physique nucléaire, parmi entre autres, parmi plein d'autres cours, et puis mon prof de physique nucléaire m'a dit, comme tu as l'air de pas mal t'intéresser à ça. Écoute, si ça t'intéresse, moi je te propose, au lieu de devenir prof, ce que je voulais faire à la base, si tu veux enseigner, pas de souci, mais tu sais qu'on peut faire aussi de la recherche, ça peut être rigolo, on peut faire les deux en même temps. Donc, fais un master en physique nucléaire, et puis rejoins-moi après, et puis on fera une thèse ensemble.
D'accord.
Du coup, j'ai fait un master en physique médicale.
Ok.
Donc la physique nucléaire appliquée à la
Ouais.
médecine. Donc la médecine, j'y connaissais rien du tout. Donc pareil, j'ai dit, ah pourquoi pas, allez, on va voir. Donc pendant 2 ans, voilà, la moitié de la semaine, j'étais à Lyon et je faisais de la physique nucléaire. Et l'autre moitié de la
Ouais.
semaine, j'étais à Grenoble et je faisais de la médecine, à la fac de médecine.
Donc pas en astro, en fait, c'est rigolo.
Non, 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 pas en astro. En fait, mes diplômes d'astro, j'ai passé un DU, un diplôme universitaire en astronomie, astrophysique, quand j'étais à Saint-Michel. Et quand je suis revenu sur Lyon, c'est la
Physique médicale,
physique
quoi.
qui m'a. Physique, voilà. Alors, c'était vraiment la partie infiniment petit, physique des particules, qui m'intéressait. Mais dans cette discipline-là, en plus, il y avait une utilité immédiate pour les gens, c'est-à-dire qu'on pouvait se servir de la physique des particules pour
Ouais.
soigner des gens. Donc c'était quand même super intéressant. Et donc après ce master, et ben justement j'ai poursuivi avec cette thèse
OK.
en physique médicale, où là l'idée c'était d'utiliser des accélérateurs de particules, des gros accélérateurs de particules pour soigner des tumeurs avec une efficacité pour certains types bien supérieurs à ce qui existe aujourd'hui. Donc, voilà. Donc il y avait vraiment une application dans la vie de tous les jours de choses qui normalement sont vues comme assez théoriques. Voilà. Donc j'ai fait cette thèse, je l'ai soutenue et j'ai terminé en 2011. Et puis après, comme tu le sais, une fois qu'on termine sa thèse, eh bien, une fois qu'on a eu son doctorat, qu'on est docteur en physique, eh ben, il faut chercher des postdocs. C'est-à-dire des places dans des universités qui veulent de vous, qui peuvent être de 1 mois, 3 mois, six
8 ans.
mois, 1 an, 8 ans. Mais souvent, les postdocs, on les enchaîne jusqu'à finir par trouver une place. Et c'est là où j'ai eu encore un gros virage parce que j'ai cherché des postdocs. J'ai trouvé deux postes, un qui était au CERN, à Genève, où on travaille aussi sur ces questions d'hadron thérapie, qui était le domaine dans lequel j'avais vraiment travaillé, et puis un autre qui était en Allemagne, sur un centre qui justement en Allemagne traitait déjà avec cette technique de physique de particules. Il n'y en a pas en France. Il y en avait à l'époque un en Allemagne et un en Italie qui prévoyait de se construire et qui est aujourd'hui construit. Sauf que les deux responsables de ces postes m'ont dit la même chose, c'est-à-dire on serait ravis de vous accueillir. Par contre, on ne peut pas vous payer. Donc, il faut chercher des financements pour payer votre propre postdoc. Et si vous avez les sous, n'hésitez pas à venir. Nous serons ravis de vous recevoir pour continuer à travailler sur vos recherches. Voilà. Et donc, ma recherche de poste s'est transformée en recherche de bourse. Et ça, par contre, ça n'a pas marché. J'en ai cherché de partout. Ce n'était pas une très bonne période de
C'est dur, hein.
recherche en 2011 en plus. Il y avait quelques soucis pour trouver des fonds un peu partout. C'était un peu la galère pour tout le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière académique par faute de financement pour faire la suite. Et en parallèle de ça, comme j'étais sur Lyon, justement, il y a d'autres personnes qui avaient entendu un peu parler de moi, entre autres le planétarium de Lyon. Voilà, puisque je m'intéressais toujours à l'astronomie à côté. L'astro, ça a toujours été premier amour, quoi, ma première passion intellectuelle. Et du coup, c'est le Plané qui m'a contacté en me disant sachez que si ça vous intéresse, on ouvre un poste au Plané. On voudrait un médiateur scientifique qui ait un plus de contact avec le milieu universitaire, avec la recherche, pour développer un peu des choses dans ce domaine-là. Et puis, faire de l'événementiel aussi.
Ouais.
Donc, l'événementiel, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais du coup, j'ai postulé pour ce poste en plan B, en disant, si j'ai un souci,
si ça marche pas,
ça aussi. Et puis finalement, le plan B est devenu le plan A. Ouais. Et du coup, je suis arrivé au Plané en faisant une partie que je connaissais très bien déjà, qui était la médiation scientifique, mais la partie événementielle, donc organiser des événements, les imaginer, les créer, les organiser, les prévoir, et puis les animer sur place. Donc là, cette partie événementielle, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place et qui était très intéressant. Et donc, ces deux postes, à la fois la médiation dans la grande salle du Plané, où tu discutes du ciel avec les gens, puis après, un peu en off derrière dans ton bureau, où tu planifies et tu organises plein de choses. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans jusqu'à l'année dernière.
Okay.
Et puis, au bout de 10 ans, j'avais fait un petit peu le tour. Et c'est là où j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et de prendre tout ce que j'avais appris à faire dans ma vie et d'en faire un gros paquet en disant je vais proposer maintenant aux gens que ça intéresse de faire ça. Donc plusieurs petites choses que je fais maintenant dans mon travail. Voilà.
Alors, tu fais quoi ? T'écris ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai trois gros piliers, ce qui ne m'empêche pas ensuite d'avoir des choses un peu originales qui arrivent, qui n'étaient pas prévues, mais c'est la beauté du travail. Mais les trois piliers, le premier, je fais des conférences grand public. Donc ça peut être des clubs astro ou des gens qui m'appellent pour me dire est-ce que tu peux venir pour faire une conférence sur tel sujet tel jour. Donc je me déplace partout en France pour ça. Je fais de la rédaction d'articles journalistiques, donc pour le CNES, pour Polytechnique, pour Sciences et Vie, pour des blogs aussi parfois. Un blog médical qui m'en a demandé plusieurs justement sur le lien entre la médecine et l'espace, très important chez les astronautes. Donc en fait, tu vois, tout sert, tout finit par servir au bout d'un moment. Et puis la dernière chose, c'est justement cette partie événementielle. Donc là, c'est plutôt des universités ou des labos qui m'appellent pour organiser des soirées institutionnelles, des workshops, des tables rondes. Quand ils veulent organiser quelque chose comme ça et qu'il n'y a pas forcément en interne un chercheur qui peut gérer tout ça, ils m'appellent et moi je prépare les choses avec eux, je l'organise et puis je l'anime sur place parce qu'il faut toujours un chairman, quelqu'un en micro pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le troisième pilier des activités que je propose.
Et qu'est-ce que tu préfères faire ?
Je préfère faire tout ce qui me permet de rencontrer des gens en vrai. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup l'écriture. C'est vraiment intéressant, mais je crois que définitivement, ce que je préfère, c'est quand j'ai des gens qui sont en face de moi, que je peux leur raconter des trucs et qu'ils peuvent me poser des questions et qu'on discute. Cet aspect humain, rencontre, échange, partage. C'est ma partie préférée dans mon cœur, ce qui n'empêche pas que je m'amuse beaucoup en faisant le reste.
Bien sûr, si
j'ai décidé de le faire, c'est parce que ça me plaît. Mais mon préféré de préféré, c'est quand je fais une conf et que j'ai des enfants ou des adultes qui viennent me voir, qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis à la fin de la conf, ils ont des étoiles plein les yeux.
Ça.
Et puis ils viennent me voir et puis ils veulent encore me poser des questions parce que c'est fini. Mais pour eux, ça a pétillé leur cervelle. Voilà, cette partie-là, c'est clairement ce que je préfère.
Et quel est ton meilleur souvenir ? Est-ce que tu as un souvenir comme ça, d'un truc que tu as fait qui t'a vraiment marqué ?
On en a toujours.
C'est dur, je sais.
Il y en a
plein. Ça peut être ton top 2 ou 3.
J'avais déjà raconté récemment, dans une autre interview qu'on avait fait, cet épisode, en fait, où une vieille dame était venue me voir après que j'ai parlé de l'univers, plutôt la partie cosmologie, les grandes échelles, etc. Donc on est parti très très loin dans l'univers. puis qui était venue me demander si c'était vrai qu'on voyait aussi loin. Donc, je dis, oui, bien sûr, madame. Puis elle me dit, non, parce que mon mari est décédé il y a peu de temps et je voulais savoir si dans vos télescopes, vous voyez le paradis, parce que je voudrais savoir s'il va bien. Et enfin, tu vois, c'est. Ben ouais. Et là, tu n'es plus dans la partie science, tu n'es
Oh,
plus dans la
c'est trop
partie
mignon.
astrophysique, machin. Tu as quelqu'un
Mais
qui est
non,
là, qui veut
non.
être rassuré. Et c'est un moment qui est, voilà, qui est, qui, que, dont je me souviendrai toujours. Il y en a un autre, alors ça fait très très plaisir aussi, c'est quand on s'aperçoit que ce qu'on fait, ben, on ne le fait pas pour rien.
Ouais, ça fait plaisir, ouais.
Et je me rappelle que un an avant que je. Donc je suis resté 10 ans au
Ouais.
planétarium de Vau-en-Velin. Et donc en 2010, j'ai une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Alors, je lui dis non.
Désolé.
Je suis désolé, mais non. Je vois 450 personnes par jour depuis 10 ans. Non, je suis désolé. Et en fait, évidemment, je ne pouvais pas me souvenir d'elle parce qu'en fait, elle me dit, en fait, moi, je suis venu en 2012. Donc, en fait, ça faisait juste un an que j'étais au
Ah
planète. J'étais en CM2.
ouais.
Et en fait, je voulais juste vous dire que ben, là, aujourd'hui, je suis à l'université et j'ai décidé de devenir astronome.
Wow.
Et en fait, ben, j'ai décidé parce que quand je suis venu au planète, vous nous avez parlé du ciel. Et en fait, ça m'a tellement passionné que ça ne m'a jamais quitté.
Wow.
Et en fait, ben, maintenant, je poursuis ce rêve. J'en suis qu'au début, mais j'ai passé mon bac scientifique. Et puis, j'ai envie de continuer et de découvrir l'univers. Et 10 ans plus tard, ben, tu vois que une phrase, une petite phrase. Ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, que tu as donné à cette petite
Ouais,
fille,
ça fait plaisir,
a fait
quoi.
que ben sa vie a changé quoi. En tout cas qu'elle a pris ce jour-là une décision
Ouais.
qui fait qu'aujourd'hui elle est là où elle est, elle fait ce qu'elle fait et que tu as compté, ne serait-ce que pour cette personne.
C'est déjà suffisant.
Et ben
Ouais.
voilà, tu sais que tu fais pas ça pour rien et c'est aussi un très joli souvenir que je garderai certainement toujours.
Alors, je vais faire une petite parenthèse. Le bruit de fond que vous entendez, c'est Onyx, la corgi de
Oui,
Pierre.
j'essaye de faire en sorte qu'elle fasse pas trop de bruit. Et désolé.
Si, non, non, mais c'était juste pour dire, si vous entendez des petits bruits, c'est les petits
C'est
bruits
ses
de
petites
pattes
papattes.
d'Onyx sur le sol. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il suffit d'aller sur Twitter, de regarder dans le profil de Pierre.
Si tu cherches hashtag Onyx la corgi, tu trouveras toute sa vie depuis qu'elle est à la maison depuis 5
Et elle est trop mignonne. Il fallait absolument que je place Onyx parce que sinon elle aurait été malheureuse, elle aurait fait ses petits bruits de pattes pour rien.
ans. Ça y est, elle est allongée, elle ne bougera plus.
Donc qu'est-ce qui a déclenché toi vouloir passer du planétarium en freelance? Bon, le planétarium, ça faisait 10 ans, peut-être que ça faisait longtemps, tu avais peut-être envie d'autre chose, mais pourquoi t'es passé de ça en freelance, sachant que freelance quand même, c'est un boulot, c'est un peu comme être dans un grand 8 parfois certaines semaines, on a l'impression qu'on descendra jamais du grand 8, c'est énormément de stress, par contre, voilà, ça peut valoir le coup si c'est vraiment le genre de choses qu'on a envie de faire. Donc
C'est
qu'est-ce qui a
ça.
été ton déclic toi pour passer de l'un à l'autre?
C'est vrai que c'est un saut qui est, il faut être honnête, qui est pas évident, surtout que bah ce changement-là de statut professionnel s'est fait dans un sens qui se fait, je crois, pas forcément. En tout cas, qui peut effectivement être stressant
C'était
parce
un
que
CDI.
voilà, j'étais sur un CDI et en plus, comme le Planet est un établissement de la mairie, du coup, j'étais assimilé fonctionnaire.
Ah oui.
Donc du coup, j'avais un poste qui
Ah
était stable, qui était assuré, avec une évolution pérenne,
oui.
sur une grille indicielle qui me permet de savoir à 10 ans à l'avance ce que je
Ouais.
vais gagner, où je vais en être. Enfin, tu vois, on est sur quelque chose de très sécurisant. Et ça convient. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est important. Je suis pas en train de dire qu'il y a un statut qui est meilleur qu'un autre. Il y en a juste un qui convient mieux
Ouais,
à certaines personnes
bien sûr.
et un autre qui convient mieux à d'autres. C'est uniquement ça la différence.
Ouais, c'est exactement la discussion que j'ai avec mon homme assez régulièrement, parce que lui, il est en CDI et il me dit souvent, bah, plus je te regarde, et moi, ça me donne envie.
Non mais voilà. Et c'est tout à fait entendable. Et c'est tout à fait entendable.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Après, l'avantage aussi de ce qu'on fait nous, c'est, alors certes, il faut s'occuper de beaucoup plus de trucs, entre autres quelque chose que
Ouais.
je n'avais jamais fait de ma vie, qui est l'administratif,
Là, et ouais.
la compta et les factures et les dossiers. Voilà, ça a été là, il a fallu tout apprendre. Heureusement que j'ai des personnes qui sont proches de moi et qui ont pu m'aider aussi à ça, parce que sinon tout seul, je sais pas comment
Oui,
j'aurais
c'est dur hein, parce que parfois t'as pas le temps de t'en occuper, mais en même temps, si tu t'en occupes pas, t'es pas payé. Donc,
C'est ça.
et à un
À un
moment,
moment, ça faut quand même mettre du beurre
ouais,
dans les
voilà,
pâtes, un minimum.
ça devient super
C'est ça,
obligatoire.
exactement. Et du coup, d'ailleurs, au passage, aussi bien du côté très proche, hein, ma compagne m'a énormément aidé pour justement toute cette partie création au début, administrative, quelles sont les règles de l'URSSAF, est-ce que je suis soumis à la TVA ou pas.
Eh
Enfin, pour moi, la physique nucléaire, c'est vachement plus simple
ouais.
et vachement plus drôle qu'aller voir les règles de TVA et ce que l'URSSAF veut ou pas que je fasse. C'était très compliqué pour moi. Et il y a aussi une autre chose, d'autres personnes qui m'ont aidé aussi, c'est justement la communauté des vulgarisateurs et vulgarisatrices qui ont fait le pas avant moi et qui sont aujourd'hui auto-entrepreneurs, pareil, ou qui ont leur société et vers qui j'ai pu me tourner et qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit attention Pierre, pense à ça, ou si j'avais su ça, bah, ça m'aurait aidé parce que
Ouais.
truc. Et cette communauté-là, ça reste une communauté qui est globalement très bienveillante
Ouais.
et sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Et j'espère que si d'autres personnes font ça, bah, ils viendront vers moi. Je ne suis pas sûr que j'aurai la réponse, mais s'il l'est, je serais ravi de la donner parce que tu passes le flambeau comme ça.
Ouais.
Et c'est quand même vachement chouette.
Et
Donc,
le déclic du
ouais,
coup.
le déclic, alors c'est bah, le déclic, c'est Twitter, justement.
Ah, justement, j'allais en venir
Mais
après.
en fait, ce compte Twitter, je l'ai fait. Je sais même plus quand. En fait, je crois que je l'ai fait vers 2013. Et puis pour voir ce que c'était, juste, enfin pour voir ce que c'était. Et puis parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire et pas assez de place et de temps pour le dire, y compris au boulot, parce qu'au boulot c'est très normé. Tu vois, tu fais une
Ouais.
séance sur les planètes, puis après tu fais une séance sur les étoiles. Bah, si t'as envie de parler de trous
Tu
noirs,
vas te
t'en parles
parler
pas.
d'autre chose.
Ouais, c'est ça. Donc du coup, je me suis dit ah tiens c'est rigolo parce que là je peux parler de ce que je veux. Donc puis il y a une ou deux années où j'ai un peu laissé tomber, et puis après je l'ai repris, je crois, vers 2015. Et puis j'ai commencé à raconter tout ça, mais juste pour partager les choses que je trouve fascinantes avec des personnes qui pourraient le faire. Et uniquement dans cet objectif-là. Et puis petit à petit, ben, le compte a cru, il y a de plus en plus de personnes qui m'ont suivi.
Très suivi maintenant.
Et maintenant, je suis beaucoup plus suivi qu'avant, clairement. Mais c'était pas du tout l'objectif. Enfin, je me
Mais
suis
c'est pour
toujours
ça que ça marche aussi,
contrefoutu.
hein. C'est ça qui
Voilà,
fait que
je
c'est
me suis
bien, ouais.
toujours contrefoutu du nombre de personnes qui me suivaient. Je parlais à peu près de la même manière quand j'avais 500 followers,
Ouais.
ou aujourd'hui que j'en ai beaucoup plus. Donc, voilà. Sauf que bah, maintenant, ça devient important. Parce qu'effectivement, quand tu es suivi par plus de personnes, c'est des personnes, mais c'est aussi des institutions qui vont te suivre. C'est des universités, c'est des labos, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs qui ont entendu parler ou qui ont vu passer ton truc. Ils disent, ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Et donc, ça te fait quelque chose qui grossit, à la fois en termes d'audience, mais en termes aussi de réseau. Et tu as ce réseau
Ouais.
qui se fait un peu tout seul au début.
Et d'opportunités carrément,
Et en fait, ce qui s'est passé, parce que je vais répondre à ta
ouais.
question, c'est que l'été dernier, bah, j'ai commencé à avoir beaucoup de personnes, d'institutions, de différentes origines, plutôt scientifiques, qui me contactaient pour me dire, ah Pierre, est-ce que tu fais des conférences, ou est-ce qu'on pourrait t'inviter à telle table ronde, ou est-ce que tu pourrais nous écrire un article là-dessus? Sauf que ben, dans l'état où
Bah
j'étais,
non.
je ne pouvais pas.
Ouais.
Donc en fait, j'avais plein de choses passionnantes, et c'est là où je me suis dit, bon, visiblement, il y a quelque chose, on va parler avec des gros mots, il y a un marché. Tu vois, il y a quelque chose. Et puis comme ça faisait 10 ans, donc ça faisait déjà un an ou deux que je commençais à regarder un peu à gauche à droite pour voir ce qui se passait. Et
Ouais.
avec toutes ces demandes, c'est arrivé l'été
21, ouais.
2021. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, bon, visiblement, il y a suffisamment de trucs pour que je puisse y réfléchir de manière sérieusement. On en a parlé un peu avec ma compagne, et puis à un moment, bah, j'ai décidé de me lancer. Et puis je regrette pas parce que ça fait un an et que ça marche bien. Et maintenant, en fait, mon compte Twitter, je continue à mettre dessus tout ce que j'aime, des choses un peu perso parfois, et beaucoup de choses sur la science en général et puis l'astronomie en particulier. Mais du coup, en plus, c'est devenu
Ta
bah, un peu
vitrine.
ma vitrine de communication. J'ai un site aussi, un site
Ouais, que je vais
internet,
mettre en description.
qui est, voilà, qui est astropierre.com, classique, sur lequel ben, je donne justement ce que je sais faire, ces différents piliers dont je t'ai parlé, avec des exemples. Si les gens sont intéressés de savoir quelle conférence tu peux nous faire, ben, il y en a une liste d'une quinzaine. Mais sur la partie communication et vitrine, c'est clairement mon compte Twitter, puisque je ne suis que sur ce réseau social-là. J'ai pas de chaîne Twitch, j'ai pas de compte YouTube, autre chose. Il faudrait prochainement, je sais que j'ouvre un compte sur LinkedIn, tout le monde me
Oui.
le dit. Donc apparemment c'est bien pour le boulot.
Oui.
Il faudrait que je le fasse, mais voilà, c'est devenu aussi, entre autres, ma vitrine pour mon travail maintenant.
Alors, j'ai un commentaire, tu sais, ce fameux ceci est un commentaire et non pas une question. Non, plus sérieusement, j'ai un commentaire et une question. Alors, la première chose, c'est, je pense, c'est vrai que les gens voient ça avec moi aussi. Je suis partie de 8 ans de postdoc pour être freelance le mois d'après. Et c'est vrai que les gens ont l'impression que j'ai quitté la recherche du jour au lendemain et que d'un coup, je suis devenue freelance. Et toi, c'est pareil. Ils doivent se dire, t'es partie d'un CDI à la freelance, en fait. Mais c'est important, je pense, de bien dire que t'es pas partie de rien.
Oui.
T'es parti parce que y avait plein de choses derrière et y a des gens qui réalisent pas et qui pensent que c'est d'un jour à l'autre. Mais c'est important de dire que tu as construit ton réseau. Tu avais ce réseau grâce à Twitter et t'es pas parti sans avoir construit ça
Ça.
et sans savoir qu'il y avait ça.
Oui, c'est important effectivement parce que là encore, quand tu te renseignes sur d'une manière générale le freelance et en particulier la solution que moi j'ai choisie qui est l'auto-entreprise, ben, au début c'est pas simple. C'est pas simple parce que bon, tu crées ton auto-entreprise, alors tu fais les dossiers, tu remplis, tu signes, tu envoies tout ce qu'il faut envoyer. Puis au bout d'un moment, on dit voilà, vous avez votre numéro, tu as ton numéro, tu existes.
Et
Ben
voilà.
ouais, mais c'est pas pour ça que les gens,
Je fais quoi
voilà, c'est
maintenant?
pas pour ça que les gens savent que tu existes. Et en fait, en général, quand tu commences comme ça, ben, tu le sais et tu l'anticipes, tu le prévois normalement. C'est que tu vas avoir un début où ben il n'y a pas grand-chose qui va rentrer, ça va être compliqué, mais parce que petit à petit, ben tu vas faire ta com, les gens vont te connaître, et puis ce qui marche le mieux, mais ça, en général, on le sait tous, hein, c'est le bouche à oreille. Si les gens sont contents de ce que tu fais, non seulement ils vont te rappeler, mais ils vont te recommander à d'autres personnes. Donc, avec le temps, si tu fais les choses correctement, ça va de mieux en mieux. Mais du coup, ça veut dire que ça commence par du pas top. Et ce qui m'a permis de réduire énormément, et ça, c'était pas forcément calculé, ou en tout cas, je m'en suis servi comme ça, mais c'est justement le fait que j'avais déjà un réseau et une communauté par ce compte Twitter qui a tout de suite, non seulement qui, ben, dès que j'ai annoncé, ça y est, je suis auto-entrepreneur, je me lance, n'hésitez pas à me contacter, appelez-moi, et ben, alors ça n'a pas été le raz-de-marée non plus, mais j'ai eu tout de suite déjà quelques appels, quelques
Suffisamment, quoi.
contrats qui m'ont permis de faire un peu, de faire fonctionner la machine. Et ça, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui démarrent leur auto-entreprise. Et pour le coup, c'est une chance. Une chance que j'ai eue de pouvoir m'appuyer sur un réseau que j'avais déjà fait, pas pour ça, mais qui pour le coup a été bien utile.
Ouais, carrément. Et Twitter, tu y passes combien de temps à peu près? Non, parce que souvent je me demande, tu postes énormément de choses, c'est bien fait, c'est sourcé, c'est recherché, ce sont des bonnes
Ah,
infos.
ça c'est très
Et il y
important.
en a, je sais pas combien par jour, peut-être une vingtaine de tweets par jour. Et combien de temps?
J'ai jamais compté, je sais pas du tout, je peux pas te dire. Alors, je vais te dire un secret. Mon secret pour faire croire que je suis toujours là,
Tu
c'est le tweet
planifies.
programmé.
Oh ouais. Mais quand même, tu passes du temps à les préparer.
Oui, c'est vrai. En fait, j'ai beaucoup plus, je reçois beaucoup plus d'infos que ce que j'ai le temps de mettre. C'est-à-dire que je fais un tri. Et je fais un tri selon mes propres critères, hein, qui sont parfaitement subjectifs, qui sont ce que j'aime déjà. Si je n'aime pas, j'en parle pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour d'autres, mais ben, voilà. Ce que je comprends S'il y a une news qui est un peu trop pointue ou technique pour moi, je veux, si quelqu'un me pose une question après un tweet, être un
Ouais,
maximum
être
en
capable,
mesure
ouais.
de répondre à la personne en donnant des informations complémentaires pertinentes. Donc si je sens que j'en suis pas capable, et ben du coup, il m'arrive de pas poster l'info parce que du coup,
Ouais.
je suis pas solide là-dessus. Alors tu peux pas être solide sur tout, mais t'essayes
Un
d'être
petit
un peu
peu de
sérieux, quoi.
répondre.
Et puis voilà. Donc du coup, j'y passe pas mal de temps. En fait, j'y suis plus ou moins en permanence la journée quand je ne suis pas en train de travailler sur autre chose. Donc, si je ne suis pas en train de
Ok,
rédiger
ouais.
un article pour le CNES,
Ouais.
de préparer
Faire
une
une conf.
conf, ma prochaine conf pour la semaine d'après, ou de faire une visio avec des gens avec qui je vais travailler dans un mois pour préparer un événement, si je ne suis pas en train de faire ça, je suis sur Twitter et je fais de la veille. Alors la veille, elle se fait sur Twitter, c'est l'avantage de ce réseau, c'est qu'on peut, quand on suit les bons instituts, les bonnes personnes, les bons
Ouais,
scientifiques,
bon
avoir
compte.
plein d'infos qui arrivent, qui sont intéressants, faire ce tri et puis diffuser régulièrement ce genre de choses. Et effectivement, il m'arrive, tu vois, par exemple,
Ouais.
le samedi matin, j'aime bien poster des trucs le samedi matin, mais souvent, je dors
C'est
le
vrai?
samedi
Tu
matin.
dors?
Et il y a des trucs qui se postent tout seuls.
Mais comment oses-tu?
Je dors. Et non, bah, ouais, j'essaye vraiment, sur les conseils de plein de gens, de garder quand même un
Ouais.
certain équilibre entre la partie pro et la partie perso, ce qui n'est pas forcément simple, surtout
Ouais,
quand
c'est
on
sûr.
travaille depuis chez soi. Parce que du
C'est
coup,
dur.
quand tu travailles de chez toi,
Tu travailles tout le temps.
en tout cas, personne ne t'empêche de le faire,
Ouais.
quoi. C'est-à-dire que tu peux toujours dire, ah, encore un peu plus, ah, il faut que je termine, ah,
Ouais,
il faut que
ouais.
j'avance, et puis il est 21h, et en fait, t'as pas fini. Et ça, c'est à mon sens, pour moi, c'est pas une bonne chose. Il y en a certains qui s'y
Oui.
sentent vraiment très bien, mais
Ça s'apprend.
pour moi, c'est pas une bonne chose. Et du coup, pareil, c'est aussi en discutant avec des gens, des proches, que justement on m'a dit, attention Pierre, fais gaffe, parce qu'on se laisse très très vite emporter par ça. Et j'en parlais encore il y a pas très longtemps. Les rituels, on les a plus, les rituels qui nous permettent justement de décrocher du travail. Le simple fait de, voilà,
Ouais.
tu sors du
Le retour du
travail,
travail,
tu prends
etc.
le bus. Et dans le bus, eh ben, tu vas mettre tes écouteurs, t'écoutes de la musique, et tu as ces rituels qui font que tu sais que tu passes d'un milieu qui est le milieu professionnel à ton milieu qui est le milieu perso, et où tu vas faire des choses différentes. Là, quand tu travailles dans ton bureau, mais que ton bureau est juste à côté de la cuisine et du salon, du coup, il n'y a pas une
Ouais,
coupure
c'est la
nette.
même
Et
chose,
donc, il faut faire attention à essayer de garder ça, parce que même si l'objectif, c'est de gagner sa vie, l'objectif final, il est surtout de profiter de sa vie. Donc, c'est-à-dire trouver ce qui nous convient le mieux pour pouvoir apprécier les moments qu'on a envie et besoin d'apprécier. Et donc, ça veut dire trouver un juste équilibre entre le temps que tu passes à avoir un peu de sous et le temps que tu passes à les utiliser pour manger, aller au cinéma.
Dormir le samedi matin.
Ou dormir le samedi matin. Et donc du coup, il m'arrive effectivement. Alors il y a des jours, je ne sais pas si toi tu as vu ça, mais il y a des jours sur Twitter où il y a moins de gens parce que les gens sont en train de faire autre chose.
Ma communauté, c'est le week-end. Donc je poste des trucs stupides le week-end. Il y a moins de monde. Donc bon. Regarde les trucs débiles pour le week-end, j'aime bien.
D'accord. Moi j'ai remarqué, pour moi c'est le mercredi.
Ah ouais.
Déjà, dans la journée ça varie. Il y a le gros creux de la journée, c'est 15h. À 15h, il n'y a personne sur Twitter. Et donc c'est pour ça que je tweete un petit peu plus le matin que
Ouais.
l'après-midi, parce que comme je sais qu'il y a moins de monde, et du coup, je vais plus faire d'autres trucs quand il y a moins de monde. Donc déjà, ensuite, le mercredi et le vendredi, pour moi, c'est un jour où il y a moins de monde aussi. Et du coup, ça me permet soit d'être moins sur Twitter, soit d'en profiter pour programmer deux trois tweets pour le samedi matin, ce qui me permettra de samedi matin de dormir, et puis quand je me réveille quand je veux, parce que c'est aussi l'avantage d'être freelance, c'est quand même, parce qu'il y a des inconvénients mais il y a quand même des avantages pour en parler, c'est que tu gères et que tu organises ton temps comme tu veux aussi en fonction des événements, hein. Donc il y a des moments où comme tu le disais tu vois pas le soleil, mais du coup ça veut dire que le reste du temps, si tu as envie de te reposer et de dire aujourd'hui je me repose, et tu te
Ouais.
reposes, et c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, cette nouvelle vie, moi je l'aime bien, elle me convient bien avec toutes ses particularités. Donc que ça va continuer à fonctionner et que je pourrai en profiter encore quelques temps.
Ben ouais, au départ, les 1 an, c'était un test un peu, non?
En fait,
Ouais.
je suis resté très prudent. Et j'avais même
Ouais.
dit à ma compagne que elle m'a dit, regarde, tu vois, ça marche, pas de souci, t'inquiète pas trop. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez inquiet aussi, parfois. Et je lui avais dit,
Ouais.
il me faut 1 an pour passer toutes les saisons, tous les
Ouais.
mois, voir comment ça se passe. Et dans 1 an, je me détendrai. Et 1 an, c'était il y a 2 semaines.
Oui, il n'y a pas longtemps là, hein. Ouais.
Et ça y est, du coup, je vois que ça fonctionne. Et du coup, je commence à me détendre. Mais
Ok.
c'était pas forcément le cas la première année parce que c'était une nouvelle aventure, voilà.
Ça prend du temps, hein, d'être tranquille, puis de pas culpabiliser quand tu travailles pas, quand les gens travaillent. Parce
Tout
que
à fait.
prendre du temps pour soi, c'est important, mais il faut l'apprendre. C'est-à-dire, y a des fois, tu travailles le week-end. Du coup, en pleine semaine, on prend une matinée pour faire une grasse mat parce que ça fait du bien
Oui.
et qu'on a bossé le week-end. Mais sauf que se dire que tout le monde travaille et que moi, je suis au lit en train de gratouiller les moustaches de plume, bah, c'est toujours un petit peu dur. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que, bon, bah, en fait, on se dit, oui, bah, là, je suis au lit, mais ce week-end, pendant que tout le monde était tranquille à vivre son week-end, moi, je travaillais.
Eh ben, c'est exactement pareil. Et je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Surtout quand tu sors d'une vie entière avec ce rythme de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Eh ben, c'est pas parce que, j'allais dire du jour au lendemain, c'est pas tout à fait ça, mais presque, que tu deviens indépendant. C'est pas pour ça que ce rythme qui t'a
Ouais,
façonné disparaît tout seul. Et au début, j'ai vachement culpabilisé justement inconsciemment du fait de. Alors, par exemple, si je bosse le samedi, et ben du coup, je prends mon week-end le
ouais.
dimanche et le lundi.
Ouais.
Mais du coup, ben tu te lèves le lundi et puis tu te réveilles
Non.
le matin à 8 h et tu fais, ah, c'est lundi, il faut que je travaille. Non, il faut que je dorme.
Ouais.
Qu'est-ce que je fais? Et au début, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Et puis petit à petit, tu finis par ce
Ouais.
syndrome de mais attends, j'usurpe quelque chose. Tu vois, c'est vraiment cette idée que j'avais au début. Et puis petit à petit, tu t'aperçois que
T'habitues.
tu usurpes rien du tout, que ton travail, tu le fais largement,
Ouais.
et que c'est simplement une autre manière d'organiser son temps et sa vie.
Ouais.
Et quand tu l'as compris et intégré, parce qu'il n'est pas tout de le comprendre intellectuellement,
Ouais.
que derrière ton subconscient continue pas à te
Ouais.
mettre des petites épingles dans le dos.
Ouais.
Mais quand tu l'as intégré, bah du coup, tu es beaucoup plus serein avec ça. Et moi, ça m'a pris effectivement quelques mois quand même
Ouais, ça prend un peu de temps.
pour être bien avec ça, carrément.
Merci Pierre, en tout cas pour tout ça. On arrive vers la fin de ce podcast. Est-ce que y a quelque chose que tu as envie de dire, un message que tu as envie de faire passer ou une dernière chose à raconter?
Si vous le pouvez, si vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Sachez-le, vous êtes légitime. On se bride beaucoup. On est certainement notre pire ennemi. Homme comme femme, faites ce que vous avez envie de faire, si vous pouvez le faire, si vous sentez que vous pouvez le faire, et ne vous bridez pas parce qu'on vous dit que vous ne pourrez pas le faire. C'est quelque chose qui est très important. Vous n'avez qu'une vie. Donc
Ouais.
profitez-en, trouvez votre équilibre et soyez heureux, nom d'un
Nom
chien.
d'un chien, nom d'une onyx.
C'est ça.
Eh ben merci beaucoup Pierre. À bientôt.
Et ben merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.